Né en Belgique en 1959, vous êtes philosophe et psychologue. Après Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent, vous revoici avec Les morts à l'œuvre. Vous nous y racontez des histoires vraies et vivantes de vivants qui commandent des œuvres d'art pour des morts. Nous allons y venir. Où sont les mouchoirs de votre père, Vincent Després?
Ah, ils sont quelque part, probablement, enfin plus que probablement, ils sont dans un tiroir, et, mais il arrive souvent qu'ils soient dans ma poche. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas pris avec moi parce que j'ai oublié la moitié de mes affaires à la maison.
Voilà. À quoi servent ces mouchoirs?
Quand mon père est mort, ma mère m'a demandé « qu'est-ce que tu voudrais garder de ton père? Est-ce qu'il y a un objet ?» Et mon père avait toujours de grands mouchoirs à carreaux. Et je me suis dit « tiens, mais si mon père pouvait encore me consoler, est-ce que ce ne serait pas l'objet matériel qui lui permettrait de le faire ?» Et c'est vrai que j'ai gardé ces mouchoirs, quelques-uns de ces mouchoirs, avec une espèce de soin quasi rituel, dans la mesure où un jour je me suis retrouvée à évoquer mon père dans une conférence, dans une de mes toutes premières conférences, on est en 2013, sur la question des défunts et des rapports qu'ils ont avec les vivants. Et au moment où je parle, où je suis en train de faire cette conférence, j'ai le mouchoir de mon père dans ma poche, et je me rends compte en fait que je suis en train de parler le jour de son anniversaire, ce que je n'avais pas réalisé, que normalement j'aurais dû lui dire bon anniversaire. Il n'y avait pas très longtemps qu'il était décédé. Et brutalement, ce genre de pensée idiote qu'il voudrait mieux laisser de côté me met et les larmes aux yeux et casse complètement ma voix. Et je me rends compte à ce moment-là que je suis devant un public assez nombreux et que je ne peux plus parler avec le sanglot dans la gorge. Et alors je me suis dit, bon ben, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pris le mouchoir de mon père, j'ai commencé à m'essuyer les yeux. Et puis je me suis rendu compte que mon nez coulait et j'ai tranquillement dit au public, il faut que je prenne un autre mouchoir parce que me moucher avec celui-là, je ne peux pas. C'était totalement spontané. Et je me suis rendu compte que cette mouchoir était, d'une certaine manière, était devenue un objet à part, un objet à part, puisqu'on peut se sécher les larmes, puisqu'il y a un pouvoir consolateur, je veux dire.
Tout donc c'est un mouchoir qui vous console.
Oui, oui, c'est une façon de dire que, d'une certaine manière, mon père reste avec moi dans ce mouchoir. Voilà, des gestes de consolation qu'il n'a peut-être pas pu opérer nécessairement du temps de son vivant, mais qu'il a aussi pu opérer du temps de son vivant. Eh bien, à sa mort, à ce moment-là, je ne lui demande même plus, je le mets au travail.
C'est le mouchoir qui vous console ou c'est votre père qui vous console dans ce cas-là?
Alors là, vous savez, c'est comme l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, quand Winnicott en parlait, c'était ça. Est-ce que c'est un prolongement du bébé? Est-ce qu'il a une efficacité en soi? Et ce que Winnicott, disait, on ne peut pas répondre à cette question. C'est une question, c'est un agencement en fait. C'est ce que Deleuze appellerait un agencement. C'est-à-dire, il y a une prise, il y a deux choses qui sont prises l'une avec l'autre. Et si vous essayez de démembrer, ben, ça ne tient plus, vous ne comprenez plus rien.
Où est votre père, Vincent Després?
Écoutez, ça, je dois dire que ça reste quand même une énigme. Où sont les morts? Et c'est une énigme que tous les vivants se posent comme question. Ceux qui disent que les morts sont dans le néant, ben, diront que il est quelque part sous forme de cendre dans un espace du cimetière de Robermont. Ceux qui diraient plutôt que non, les morts continuent à nous accompagner, diraient ben, il est probablement quelque part ici. Certains diraient il est surtout pas au cimetière. J'ai déjà souvent entendu dire ça. C'est que les morts ne sont pas au cimetière, c'est la mort qui est au cimetière. Mais si on va au cimetière, c'est pour bien se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas là. Donc où est mon père? Alors je peux vous raconter une dernière anecdote.
Allez-y,
c'est que pour écrire Au bonheur des morts, j'avais fait un terrain, ce qu'on appelle un terrain, c'est un peu un drôle de mot, mais j'étais allée voir un peu ce qui se passait chez les clairvoyants, les médiums, qui permettent aux gens de communiquer avec leurs morts. Je m'étais dit, tiens, ça c'est une étape intéressante. Et donc j'avais assisté à plusieurs séances où je trouvais que c'était extrêmement intéressant ce qui s'y passait. Ce sont des séances collectives où des gens viennent avec des photos, montrent la photo, donnent la photo au clairvoyant et qui va essayer d'évoquer la présence du disparu qui est représenté sur la photo. Et moi, j'y suis allée pendant des mois et des mois, simplement pour noter ce qui s'y passait, comprendre, essayer de voir tiens, en quoi ce sont des gestes thérapeutiques que j'avais comme intuition. Et puis après, par amitié et par juste quand j'ai terminé le livre, j'ai continué de temps en temps à aller faire une petite visite, mais sans photo, sans rien. Et je me souviens, une des dernières fois que j'y suis allée, je suis dans la salle avec une trentaine de personnes, il y a maman, la clairvoyante m'interpelle, elle me dit « Vinciane, vous êtes là ?» Je dis « Oui, il y a votre maman qui est là. » Bon, vous répondez poliment, comment va-t-elle? Très bien, pas de problème, parce que tout ça est une très grande banalité. Et puis elle a ajouté, mais votre papa n'est pas là, il est pour le moment en mission. Et j'ai eu un fou rire incroyable en pensant, mon père en mission, on m'aura tout raconté dans cette histoire. Et mon père, donc peut-être que mon père est en mission.
Voilà. D'accord, mais c'est vrai que cette question de la place, elle est omniprésente quand vous allez sur le terrain, quand vous dialoguez avec celles et ceux qui restent. Vous dites aussi que les morts nous déplace, que les morts nous obligent à faire et à défaire notre identité. Et vous l'expliquez notamment dans votre nouveau texte en parlant de votre grande sœur décédée, Vinciane Després.
C'est-à-dire que j'ai été confrontée dans certaines des histoires qu'on m'a racontées à propos donc de gens qui avaient fait une commande d'œuvres d'art à propos d'un disparu. Et certains montraient, et surtout un groupe de jeunes gens qui ont perdu leurs amis dans un accident de scooter.
On va en parler.
À quel point la question de quelle place on a une fois que des membres d'un collectif qui étaient très soudés s'en vont, qu'est-ce que ça rejoue comme question de qui on est, qui se souvient de nous, comment nous devons-nous nous souvenir de la personne, etc.
Mais et, vous, ça vous a déplacé aussi dans votre propre
vie. Et c'est à ce moment-là, parce que c'est assez intéressant, c'est que c'est rétroactivement, au fur et à mesure que je me confronte, moi, des histoires que les gens me racontent, je commence moi-même à comprendre des choses.
Il y a un retour vers vous.
Il y a un retour en me disant, tiens, si je devais l'expliquer très simplement à quelqu'un, ce qui est en train d'arriver, il me semble que moi, je le comprends très simplement en disant, quand ma sœur est décédée, comme j'étais la seconde, je me suis retrouvée l'aînée. Et ça a beaucoup joué parce que mes frères et sœurs plus jeunes se sont adressés à moi comme à une aînée. Et vraiment, il y a quelque chose qui a bougé dans les relations qu'on avait tous les uns avec les autres, simplement parce qu'une place, d'une certaine manière, doit... Alors, elle ne va pas être occupée. C'est pas une occupation de la place de l'autre. D'une certaine manière, ce sont des déplacements. Et quand vous dites, en effet, que les morts nous déplacent, c'est ce qui faisait dire à Thibaut Demeyer, qui était mon doctorant pendant... Enfin, maintenant, il est docteur en philosophie. Thibaut Demeyer qui disait... Les morts sont des géographes. Ouais. Ils n'arrêtent pas de nous resituer, de nous bouger, de nous obliger à nous déplacer. Et cette histoire de l'adage qui dit que les morts meurent pour laisser de la place aux vivants, il disait que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est quand les morts meurent, bien sûr, il y a de la place pour les vivants, mais surtout, on rejoue totalement les places. Et c'est donc pas tellement étonnant que la question de la place de chacun soit reposée chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va.
Et on leur laisse quelle place aux morts alors ?
Ben ça dépend justement, il y a des traditions qui leur laissent énormément de place et moi je trouvais que la nôtre était pas très généreuse à cet égard là. Les marges de manœuvre des morts, elles étaient pas très très bonnes, croyais-je, et c'est pour ça que j'avais mené la première enquête que je menais à propos du bonheur des morts, c'était de me dire, tiens, mais quand on parle de la place des morts, de l'importance qu'ils peuvent avoir pour les vivants, tout de suite on nous renvoie au Mexique, à Madagascar, en Hongrie, en Islande, enfin bref, ailleurs, mais pas chez nous. Et je m'étais dit, est-ce que nous sommes si pauvres que ça ? Est-ce qu'il y a si peu de place ? Et j'ai constaté qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il y a de la place pour les morts. Les gens cherchent à faire de la place pour les morts. Et même
mais certains... on en parle peu. Voilà. C'est peut-être alors, plus dans la sphère intime.
C'est dans la sphère, et parfois même plus intime qu'intime. Parce que parfois même au plus intime, les gens n'osent pas en parler. J'ai eu des lettres, après avoir publié Au bonheur des morts, par exemple, le monsieur qui expliquait que quand sa belle-sœur lui racontait des histoires, qu'elle avait encore des contacts, qu'elle sentait la présence de son mari, il la traitait de folle. Et il disait, et il a fallu que je fasse tout un travail pour me mettre, non pas moi-même à avoir des contacts, mais au moins comprendre que ça puisse arriver et que ce n'est pas du tout idiot, que ce n'est pas du tout une affaire extravagante. Et que nous, en fait, nous sommes bien plus imaginatifs que ce que je l'imaginais moi-même, mais c'est vrai qu'on en parle très peu.
Mais c'est le fruit de l'imagination.
Alors ça, là, vous ne m'aurez pas sur ce truc-là. C'est pas le fruit de l'imagination. Il faut redéfinir l'imagination.
Vous venez de parler d'imagination.
Oui,
c'est pour ça que je me permets.
Alors, ce que c'est qu'être imaginatif, oui, mais c'est pas le fruit de l'imagination. Donc, c'est là où je vous tense, Pascal.
Allez-y.
C'est-à-dire que je dis simplement qu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas, d'une certaine manière, qui sont sous la surface. Voilà, des significations qui sont sous la surface. Ou des événements dont on ne perçoit pas qu'ils ont des liens entre eux, par exemple. Eh bien, sans imagination, vous ne connecterez rien. Et donc, l'imagination, c'est
mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose.
Voilà, c'est ça. Alors, on est plus près de ce que Corbin, par exemple, appelait l'imaginal. Et l'imaginal, c'est très joli. C'est la capacité d'imaginer des choses qu'on ne perçoit pas. Et si on ne pouvait pas les imaginer... on n'aurait pas accès à elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. En fait, on reste dans l'incertitude par rapport à est-ce que ça existe ou pas. Mais le fait de devoir les imaginer vous dit simplement qu'elles ne peuvent pas exister par elles-mêmes, qu'elles n'ont pas suffisamment d'autonomie d'existence pour exister par elles-mêmes, et qu'il vous faut vous-même, d'une certaine manière, vous dévouer, un peu comme un personnage. Vous voyez, ça ressemble à, c'est pas des êtres de fiction, mais ce que Souriau ou Bruno Latour appelaient les êtres de fiction, ben, ils ont besoin de notre sollicitude. Il y a une phrase qui est très jolie, c'est celle d'Emmanuel Berle.
Ouais.
Il dit, enfin, il est très drôle,
vous
Emmanuel Berle.
Dans votre nouveau livre.
Il dit, je ne crois pas aux fantômes, mais je doute que mon imagination seule suffise à les inventer. Et puis il continue en disant, n'est pas fantôme qui veut, ça c'est indéniable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans notre aide, un fantôme ne devient pas fantôme. C'est pas de sa volonté propre. Mais en même temps, il dit, mais mon imagination, je ne crois pas que mon imagination seule pourrait suffire à les inventer. Donc ça veut dire, ce n'est pas un pur produit de mon imagination, mais sans mon imagination, il ne pourrait pas exister.
Est-ce que les morts sont encore des vivants? Incarnent-ils une autre forme de vie? Est-ce que les morts sont vivants autrement? Voilà toutes des questions que je me suis posées en vous lisant Vinciane Després. Est-ce que vous pouvez m'éclairer?
Alors, je ne dirais pas que les morts sont des vivants, parce que ça, c'est... je veux dire, on va garder quand même, on va garder la dénomination vivant pour ceux qui sont...
Vous dites à un moment, la vie qui est encore d'une autre manière.
C'est ça. Alors, il s'agit en effet, c'est juste de penser, en fait, ce qui est difficile à expliquer, à dire et à formuler, et de toute façon, pas expliquer, parce qu'une fois qu'on explique, à ce moment-là, on
ça ne s'explique pas.
Ça ne s'explique pas, je pense que non, il faut juste... suivre la manière dont les gens élaborent. Voilà. Et moi, j'ai jamais essayé d'expliquer. J'ai juste suivi en admirant la manière dont les gens élaborent ce genre de problème, ce genre d'énigmes, parce que c'est vraiment, ce sont des énigmes. Alors, les morts ne sont évidemment pas des vivants, mais ils ont des affects de vitalité, pourrait-on dire, qui leur sont octroyés par les vivants. Voilà. Ça, c'est des contorsions que je fais avec le mot vivant, en disant, ben, toutes les cultures, par exemple, font une séparation relativement élaboré entre les vivants et les morts. Les morts n'ont pas à interférer à tout bout de champ chez les vivants. Mais il y a des cultures qui ont des séparations qui sont plus souples que d'autres.
Ouais, porosité existe.
Il y a la porosité. Alors chez nous, j'ai vraiment le sentiment que même, surtout, même l'au-delà rend très imperméable la frontière entre les deux. Puisqu'une fois que les morts sont dans l'au-delà, ben, ils ont peu d'occasion d'interférer, etc. C'est plutôt des morts paisibles. Il y a eu le purgatoire à un moment donné, hein, je veux dire l'invention du purgatoire. Surtout au XIIe siècle. Là, on assiste, c'est très intéressant. Une fois que le purgatoire est instauré, il y a une émeute de morts. Ils n'arrêtent pas de revenir pour demander aux vivants qu'ils intercèdent en leur faveur afin de pouvoir quitter le purgatoire et d'aller au paradis, dont l'Église va faire tout un commerce, évidemment, en vendant des messes, etc. Et donc là, il y a une prolifération des rapports, mais qui va s'étioler, puisque l'Église va évidemment revenir de mettre de l'ordre dans tout ça, en codifiant la manière dont les morts peuvent interférer chez les vivants. Et puis on constate qu'avec ce qui s'est passé, donc la montée du positivisme, Auguste Comte, le matérialisme, la mise à l'écart de tout, du religieux par rapport à la vie publique, à la vie aussi des hôpitaux, des soins, des psychothérapies, etc., que les morts vont être de plus en plus voués à l'inexistence. Et que les gens vont devoir de plus en plus soit adhérer à ce modèle, adhérer au modèle du deuil par exemple, hein, et dire ils sont morts, ils n'existent plus, voilà, c'est dans notre souvenir et c'est bon comme ça, soit à continuer à cultiver des rapports, et vous cultivez peut-être un peu fort, en tout cas à imaginer, élaborer des rapports, mais dans lesquels, comme on le disait tout à l'heure, ils ne peuvent pas parler.
Ceux qui apprennent à entretenir des rapports avec leurs morts assument bien un travail, écrivez-vous. Un travail, mais attention, vous le précisez, pas un travail de deuil. C'est quoi alors le travail qui attend celles et ceux qui restent, Vinciane Després?
Alors celles et ceux qui restent, ben, en fait moi je remarque qu'il y a vraiment une mise au travail, mais presque dès le début.
Et ça vous le voyez, vous le percevez manifestement.
On va aller par exemple à un enterrement réussi. Vous prenez pas un enterrement raté, ouais. Là vous ne verrez rien. Vous allez à ce qu'on appelle un enterrement réussi, c'est-à-dire un enterrement où il y a des gens qui ont très envie de partager ensemble quelque chose qu'ils savaient du mort et qui ont très envie de dire encore quelque chose aux morts. Ben vous allez constater qu'il y a plein de gens qui vont venir prendre la parole et qu'on va même rire en plus. Ils vont raconter des choses, ils vont raconter des bêtises que le mort faisait ou des travers ou des tics. Et parfois même, ils vont s'adresser aux morts en disant « tu ». C'est assez étonnant. Donc ça veut dire que le mort est encore d'une certaine manière présent parmi les vivants. On s'adresse encore à lui sur un mode particulier qui va peut-être s'estomper, en tout cas en public. En fait, il y a tout un travail qui s'élabore de partage d'aspects du mort que les autres ne connaissent pas. Et on va raconter des anecdotes, on va raconter des histoires, et on se rend compte que des gens, et je l'ai entendu dernièrement à l'enterrement d'un de mes collègues, où je marchais à côté des tantes de ce collègue qui se disait entre elles, « Bon Dieu, on ne le connaissait pas du tout. » Ce qui veut dire que tout ce qui s'était dit pendant la cérémonie, en fait, quantité de gens ne le savaient pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est Magali Molinier.
On fabrique du collectif.
On fabrique un mort en commun. On fabrique un mort en commun, mais qui est beaucoup plus épais, qui est beaucoup plus riche, qui a une personnalité bien plus complexe que celle que chacun avait. Notamment, il y a parfois des moments où il y a une telle scission, par exemple, entre la famille et les copains, que les copains ne savent rien du tout de l'Angelot qui vivait dans sa famille, et que la famille n'avait aucune idée du petit démon, ou de l'adolescent, ou de la jeune adulte démon qui vivait avec ses copains. Et là, on rassemble les choses et on se rend compte qu'en fait, les morts sont beaucoup plus épais, beaucoup plus complexes. Et chacun va repartir donc avec un mort qui est beaucoup mieux fabriqué et qui pourra peut-être rester dans leur vie de manière plus stable et plus importante. Ça, c'est le premier travail. Et puis, un travail d'enquête. Et là, c'est un vrai travail. Par exemple, tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui leur était cher, ça, je l'ai entendu tellement de fois, et j'ai été moi-même impliquée dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces affaires ? Est-ce qu'on jette ? Est-ce qu'on donne ? Est-ce qu'on garde ? La robe de mariée, je la garde. Les photos, je les garde, je les transmets. Bon Dieu, mais ça commence à bien remplir les armoires, toute cette histoire.
Ça prend de la place.
Ça prend de la place, oui, les morts prennent beaucoup de place chez nous. Et puis, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité dans ce monde ? Peut-être qu'il y a ça aussi, par exemple, dans les cas de certaines morts, par exemple des morts plus jeunes, de personnes qui n'ont pas fini d'accomplir leur vie. On se dit, mais allez, ils avaient encore plein de choses à réaliser. Est-ce que je ne dois pas prendre certaines choses en charge ?
Ceux qui apprennent à entretenir des rapports avec leurs morts assument bien un travail, apprennent. Il s'agirait donc d'un apprentissage, la scène des prés ?
Oui, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment par tâtonnement. C'est le sentiment que les gens me donnaient quand ils me racontent des histoires, c'est qu'ils ont tâtonné, qu'ils ont expérimenté.
Tâtonné, un verbe qu'aimait beaucoup un certain Bruno Latour.
Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, mais je reprends sur les épaules certains démons de Bruno Latour afin qu'il continue à marteler certaines phrases dans le monde. Voilà, c'est ma façon à moi de lui être fidèle.
Votre hypothèse, c'est que les morts font agir les vivants. Qui sont, Vinciane Després, ceux qui insistent, comme vous les appelez ?
Alors, ceux qui insistent, j'ai utilisé ce terme en rencontrant ce programme qui a donné lieu à ce dernier livre, qui est le programme des nouveaux commanditaires. Peut-être que je dois dire deux petits mots quand même pour dire. Alors, le programme nouveaux commanditaires, c'est un programme qui a été élaboré par un artiste, François Hertz, il y a plus d'une vingtaine d'années, et dont l'idée absolument géniale était: les banques ont le droit de commander une œuvre d'art à un artiste, les mécènes ont le droit de commander une œuvre d'art, les fondations, les musées, le gouvernement, bref. Il y a plein d'institutions qui peuvent avoir des désirs d'art. Et pourquoi dans le grand public, pourquoi personne ne pourrait avoir un désir d'art et commander une œuvre d'art à un artiste sans nécessairement en avoir les moyens ou même l'idée ? Et si on donnait l'idée aux gens ? Et si on leur donnait les moyens ? Et donc il a lancé ce qu'il appelle lui-même un protocole artistique. C'est-à-dire, c'est tout un programme, c'est si des gens ont des désirs d'art parce que leur village est en déshérence, parce qu'ils n'ont qu'une visibilité, parce qu'ils travaillent dans une morgue et que personne n'a envie de mettre les pieds dans une morgue et que c'est un endroit en général qui n'est pas très accueillant. Bref, tous ces gens peuvent s'adresser au nouveau commanditaire et un médiateur, qui est quelqu'un qui connaît vraiment bien le monde de l'art contemporain, va prendre en charge la demande et va essayer de trouver un artiste qui pourrait répondre à cette demande d'art. Et dans toutes les commandes qui se comptent par centaines, il y a eu quelques commandes qui ont été faites parce que quelqu'un était décédé. Et donc, j'ai réalisé en lisant les premiers documents, avant même d'aller rencontrer les personnes, qu'en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de l'insistant. Il y a un mort qui est mort et qui voudrait bien qu'il y ait quelque chose encore qui soit fait.
Des morts qui insistent.
Voilà, et c'est pour ça que je les ai appelés les morts qui insistent, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui devrait être fait.
Et pourquoi répondre à celles et ceux qui insistent ?
Pourquoi est-ce que les gens répondent ? Je pense que, il me semble, de ce que j'avais pu entendre dans ma précédente enquête, que quand un mort demande quelque chose, il est extrêmement difficile aux vivants de ne pas y répondre. Quand ils ont le sentiment que le mort demande quelque chose, et je reprends un cas de figure qui m'avait vraiment appris quelque chose, c'est le fait qu'une jeune femme, par exemple, qui décide avec ses frères et sœurs de vendre la maison de son père, et le père lui apparaît en rêve, après sa mort évidemment, et lui fait un rêve où il y a une tempête. Et il leur dit, allez au grenier. Et ils vont au grenier et ils voient une tempête qui se déchaîne autour de cette maison avec des pierres, enfin c'est vraiment un cyclone. Elle comprend dans son rêve que ce que son père lui dit, c'est cette maison va vous protéger. Et donc elle décide de ne pas vendre la maison parce qu'elle interprète le rêve comme une injonction de son père à ne pas la vendre. Je ne sais pas si son père lui avait dit du temps de son vivant, vous ne devez pas vendre la maison, je vous l'ai donnée, mais vous ne devez pas la vendre. Je ne suis pas sûre que les enfants auraient obéi. Mais quand un mort vient avec une puissance dans le rêve, avec une puissance de demande dans le rêve, j'ai le sentiment qu'il est très difficile de leur dire non. On parle des dernières volontés du mort. Vous savez, c'est quelque chose d'un peu difficile à contourner, à les dernières volontés d'un mort. Je pense aussi à tous ces rêves où les gens, par exemple, et ça c'est très très beau, cette histoire que j'avais entendue plusieurs fois, où des gens racontent qu'un mort est venu leur reprocher de trop pleurer. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, ouais. Parce qu'on peut l'interpréter de deux manières. On peut l'interpréter de façon très rationaliste, et c'est intéressant de l'interpréter de façon rationaliste, c'est ce qu'on appellerait des petites combines du désir. C'est, vous savez, à un moment donné, c'est très difficile de se mettre à renouer avec la vie quand quelqu'un de vraiment important a disparu, parce que c'est comme si vous l'oubliez. Et si vous l'oubliez, c'est comme s'il n'avait jamais été là. Ça veut dire que vous ne respectez pas votre devoir de le maintenir en existence, ou en tout cas son souvenir. Le chagrin, ça reste une manière de maintenir un mort dans l'existence. Mmh. Et si vous devez vous dire vous-même, bon, maintenant ça suffit, je pleure plus, ça va être très difficile, vous aurez l'impression de trahir. Mmh. Par contre, si vous vous fabriquez un rêve dans lequel votre mort vient vous dire, maintenant on ne pleure plus, c'est moi qui en donne l'ordre, il n'y a pas de trahison. Ça, c'est la version rationaliste. Et puis vous pouvez avoir une version plus imaginative, on va dire, où peut-être que les morts, c'est ce que les gens pouvaient essayer d'évoquer de temps en temps, peut-être que les morts veillent sur nous et interviennent dans nos rêves pour nous empêcher de nous empêtrer complètement dans le chagrin.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h.